VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 20 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN avec Emmanuel Junta.
Sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Brazzaville, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a déploré le niveau élevé de pauvreté et de chômage dans la zone.
Un autre manifestant, le 72e, a été tué hier au Soudan où des émissaires américains tentent le dialogue.
Conférence de presse marathon hier du président Joe Biden à l'occasion du premier anniversaire de son accession à la Maison-Blanche. Précision sur une déclaration concernant l'Ukraine.
La Cour suprême des États-Unis inflige un revers à l'ancien président Donald Trump dans l'enquête sur l'assaut du Capitole et la justice de New York. L'accuse de pratiques fiscales frauduleuses.
Ce sont là quelques-uns des titres de cette édition.
Parcours sans faute pour le Nigeria dans le groupe D à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles ont disposé de la Guinée-Bissau hier sur le score de 2-0. L'équipe est la deuxième équipe qualifiée de ce groupe C, de ce groupe donc, de Yaoundé pour le journal de la CAN, Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. 9 points en 3 matchs, 6 buts marqués, 1 encaissé. Le Nigeria affirme sa position de sérieux prétendant au titre de champion d'Afrique lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à 2 réalisations en seconde période face à la Guinée-Bissau au stade de Rumde Adja à Garoua, le Nigeria s'est qualifié en finesse pour les huitièmes de finale. Par contre, malgré sa victoire 1-0 devant le Soudan, au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé, l'Égypte n'a pas totalement dominé son adversaire du jour. Carlos Queiroz, l'entraîneur des Pharaons d'Égypte.
Je suis très content avec la performance des joueurs, mais évidemment, il faut développer notre capacité de faire des buts. Parce que dans les matchs qu'on fait seulement un but, parfois une équipe est punie.
Même si le spectacle n'a pas été celui de haut niveau lors d'Égypte-Soudan, cette rencontre avait néanmoins une bonne charge historique. C'est ce qu'explique dans le coup de sifflet de ce jour, Jules Valentin Ngoué, depuis Libreville.
Bonjour. Il y a des affiches intemporelles qui réveillent les mémoires et oblige les contemporains à enfourcher la machine à remonter le temps, tant elle capitalise l'émotion, surtout lorsqu'il s'agit des derbies. Le match Égypte-Soudan en fait partie, quel que soit le rapport des forces du moment. On se rappelle alors que l'Égypte est avec le Soudan et l'Éthiopie, le trio fondateur de la CAF et de la CAN, le quatrième larron, l'Afrique du Sud, ayant été débouté dans l'immédiat pour cause d'apartheid en 1957. C'est d'ailleurs le derby du Nil entre les deux voisins égyptiens et soudanais qui a été le premier match de la CAN, un certain 10 février 1957 à Khartoum, gagné 2-1 par l'Égypte qui inaugura le tournoi. Depuis lors, sur les 28 matchs ayant opposé les deux nations, l'Égypte en a gagné 19 contre 3 au Soudan. Pour ce dernier match, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Crocodiles du Nil ont tenu à honorer le public sportif camerounais qui les avait vus entraîner il y a 50 ans leur seul trophée continental sur la pelouse de Douala. Au terme d'un match équilibré, les Soudanais ont poussé Mohamed Salah et les siens à se contenter d'un score étriqué d'un 1-0, là où le Nigeria clôturait un parcours parfait à Garoua avec une victoire de 2-1 contre la Guinée-Bissau. Ce soir, si les matchs de la poule F peuvent valider la qualification de la Tunisie auprès de la Gambie et du Mali, par contre les rencontres ultimes du groupe E, avec un Zaland national de Guinée équatoriale en état de grâce, et une Algérie au bord de l'élimination face à la Côte d'Ivoire sont à déconseiller aux cardiaques.
Et comme il faut bien qu'Algériens et Ivoiriens soient départagés sur le terrain dans le groupe E, les deux équipes s'affrontent à 16h temps universel. La Côte d'Ivoire va compter à nouveau sur son gardien de but, Ali Sangaré, auteur d'une bourde face à la Sierra Leone. Les assurances sont de l'entraîneur des éléphants, Patrice Baumel.
Mais écoutez, c'est sûr que cet enchaînement d'événements pour lui et pour toute l'équipe, c'est toujours très difficile à vivre. D'un point de vue sportif, il s'est senti forcément responsable. Donc nous l'avons de suite entouré, ça fait partie du football. Je lui ai de suite dit que rater quelque chose, ça fait partie de la marque des grands joueurs aussi. Je pense que sur les deux matchs, Ali a montré de grandes qualités.
L'Algérie, champion en titre, n'a qu'un seul point en deux sorties, tandis que les Ivoiriens comptent 4 points. Les supporters de deux pays entrevoient une rencontre de haute facture. Nous les écoutons.
Le match contre l'Algérie, c'est une fête pour nous, quoi. Nous, on vient prendre un ticket pour qualification, pour le prochain tour.
Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a de très bonnes individualités et qu'on a l'habitude de jouer contre cette équipe. Et dans tous les cas, il faudra gagner. Il faudra sortir un gros match contre un grand pays africain.
Ce jeudi marque aussi la fin des matchs des poules dans le groupe F. Les affiches du jour sont dès 19h temps universel, Gambie, Tunisie et Mali, Mauritanie. Pour terminer, voici quelques combinaisons des huitièmes de finale qui débutent ce dimanche. Burkina Faso, Gabon, Sénégal, Cap-Vert, Maroc, Malawi. Les autres combinaisons seront connues au terme des matchs de ce soir. Emmanuel Junta pour le journal de la CAN, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, les chefs d'État et de gouvernement des 11 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont pris part hier à Brazzaville au Congo à la 20e session ordinaire de l'organisation. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a pris la présidence tournante de l'organisation, a déploré le niveau élevé de pauvreté et de chômage dans cette zone. Le point avec Nanit Talani.
Si depuis 3 décennies, l'Afrique centrale enregistre une croissance pour le moins louable, le bien-être y reste sensiblement inférieur à celui des autres régions d'Afrique, a déclaré le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a relevé que 40%, soit près de la moitié des habitants de la CEAC, vivent dans la pauvreté, tandis que plus de la moitié des jeunes de la région sont soit à la recherche d'un emploi, soit sous-employés ou encore simplement inactifs. La conférence de Brazzaville a par ailleurs débattu des défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad et dans l'est de la RDC, de la piraterie maritime ou encore du terrorisme. Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence exhorte la Commission de l'Union africaine à organiser une session sur le terrorisme au lendemain du prochain sommet de l'Union africaine prévu les 4 et 5 février à Addis Abeba, selon le communiqué final. De son côté, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président sortant de la CEAC, a appelé ses pairs au soutien de la transition tchadienne. Les pays membres de la CEAC sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad.
Hier à Kinshasa, le président de la Cour militaire a rejeté une demande de comparution de l'ex-président Joseph Kabila au procès en appel de l'assassinat en 2010 du défenseur des droits humains Floribert Chebeya. La comparution de l'ancien président congolais et de plusieurs autres personnes était réclamée par les partis civils et par 50 organisations non gouvernementales. Leur nom avait été cité au procès par un policier qui les estime impliqués dans l'assassinat de Floribert Chebeya.
Le président gambien Adama Barrow a prêté serment hier pour un mandat. Un second, lors d'une cérémonie près de la capitale Banjul, en présence de plusieurs chefs d'État africains. La première élection de Barrow en décembre 2016 avait mis fin à plus de 20 ans de dictature sous Yahya Jammeh. Celle de décembre s'est déroulée pacifiquement et constituait la première transition ouverte depuis Jammeh, réfugié aujourd'hui en Guinée équatoriale.
Au Soudan, les forces de sécurité ont tué hier un autre manifestant, le 72e, alors qu'arrivaient dans le pays des émissaires américains David Satterfield et Molly Pee, venus plaider pour le dialogue à Khartoum, érigé de barrières des anti-push et quadrillé par les militaires. Le Soudan s'enfonce dans la violence depuis que le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, a mené un coup d'État arrêtant la plupart des civils qui partageaient avec lui le pouvoir depuis le renversement en 2019 du dictateur Omar el-Béchir.
Le président Joe Biden.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Toutes mes excuses, le président Joe Biden a donné une conférence de presse hier pour marquer le premier anniversaire de son accession à la Maison-Blanche le 20 janvier 2021. Il a vanté son bilan économique et sanitaire et promis d'aller davantage au contact des Américains, espérant relancer sa présidence avant de périlleuses législatives à l'automne. Mais ses tentatives de reprendre la main a buté sur la grande crise internationale du moment.
Oui, Monsieur Biden a évoqué la possibilité d'une incursion mineure de la Russie en Ukraine, auquel cas les pays de l'OTAN risqueraient, selon lui, de se diviser sur la réponse à apporter. L'opposition républicaine l'a immédiatement accusé de se résigner à une attaque de Moscou, à condition qu'elle ne soit pas trop spectaculaire. D'où cette précision de la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Si des forces militaires russes franchissent la frontière de l'Ukraine, cela constituera une nouvelle invasion qui attirera une réponse rapide, sévère et unie des États-Unis et de nos alliés, a-t-elle dit. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit ce jeudi s'entretenir à Berlin avec ses partenaires allemands, français et britanniques sur la crise russo-ukrainienne et éviter qu'elle ne dégénère en conflit armé.
L'étau judiciaire se resserre autour de l'ancien président Donald Trump dans l'État de New York. Lancée en 2019, une vaste enquête au civil de la procureure de cet État contre le groupe familial Trump Organization accuse l'ancien président américain et deux de ses enfants de pratiques frauduleuses en matière fiscale pour lesquelles la justice veut les entendre, Claire Morin-Gibourg.
Dans un document judiciaire étayé de plus de 100 pages, la procureure de l'État de New York, Laetitia James, annonce avoir mis au jour des preuves significatives qui laissent penser que Donald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d'actifs. Madame James, une procureure élue et membre du Parti démocrate, enquête depuis 3 ans sur une possible fraude fiscale d'envergure au sein de la Trump Organization, le groupe familial du 45e président des États-Unis et de ses enfants. Fin décembre, la procureure avait cité à comparaître sous serment son fils Donald Jr. et sa fille Ivanka. Mais la famille Trump n'a pas répondu aux convocations. Une porte-parole de Donald Trump, Liz Harrington, a répliqué sur Twitter que ces allégations étaient sans fondement et seraient vivement combattues. La famille Trump accuse depuis des mois la procureure James de motivation politique et a qualifié son enquête de menace contre notre démocratie.
Et la Cour suprême des États-Unis a ouvert hier à une majorité de 8 juges sur 9 la voie au transfert de documents liés aux agissements de M. Trump le 6 janvier 2021 à la commission d'enquête de la Chambre des représentants chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut sur le Capitole. Cette décision représente une victoire considérable pour la commission qui est engagée dans une véritable guérilla judiciaire avec M. Trump et ses proches. Les sénateurs américains ont infligé hier soir un revers cinglant à M. Biden en enterrant sa grande réforme électorale avec laquelle le président promettait de protéger l'accès aux urnes des Africains américains. Ils ont refusé de déclencher la seule procédure qui aurait pu permettre aux démocrates de soumettre ce projet au vote sans les voix des républicains qui s'opposent avec force à ce texte.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En visite en Ukraine pour afficher le soutien des États-Unis à Kiev, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que les Ukrainiens devraient se préparer à des jours difficiles, assurant que les États-Unis continueront de leur fournir une aide défensive et réitérant la promesse américaine de sanctions importantes contre la Russie en cas d'offensive. Le point avec Jean-Roger Bion.
La Russie pourrait lancer à très courte échéance une attaque contre l'Ukraine, a prévenu mercredi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ajoutant que les États-Unis allaient poursuivre aussi longtemps que possible dans la voie diplomatique, en dépit des doutes sur les demandes véritables de Moscou.
Nous avons offert à la Russie un choix évident entre la voie du dialogue et de la diplomatie d'un côté et la confrontation et ses conséquences de l'autre. Et nous avons entrepris d'intenses échanges diplomatiques avec la Russie directement, avec l'OTAN et l'OSCE. Mon souhait est toujours que la Russie choisisse la voie diplomatique. C'est clairement préférable.
La Russie a déclaré que la tension autour de l'Ukraine s'accentuait et qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse écrite de Washington sur ses demandes de garanties sécuritaires de la part de l'Occident. Anthony Blinken n'a pas donné d'indication sur la rapidité avec laquelle la Russie pourrait agir. Selon des analystes indépendants, Moscou n'a pas mis en place pour l'heure des moyens logistiques et médicaux suffisants pour lancer dans l'immédiat une attaque contre l'Ukraine. Mais pour Washington, mieux vaut prévenir que guérir.
Nous avons dit clairement aussi que si la Russie venait à renouveler son agression contre l'Ukraine, nous, pas seulement les États-Unis, mais plusieurs pays en Europe et peut-être ailleurs, nous répondrions avec force et détermination et de trois façons. D'abord, nous avons œuvré intensément à l'élaboration de sanctions sévères, financières, économiques, contrôle des exportations et autres, en étroite collaboration avec nos partenaires européens. Ensuite, davantage d'assistance militaire et en matière de défense à l'Ukraine. Et troisièmement, il est presque certain que l'OTAN va devoir renforcer sa propre défense sur son flanc oriental.
And third, it's almost certain that NATO would have to reinforce its own defenses on its eastern flank.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié mercredi Anthony Blinken pour le soutien militaire renforcé apporté par Washington à Kiev, alors que l'administration du président Joe Biden a approuvé le mois dernier l'octroi de 200 millions de dollars supplémentaires d'aide à Kiev. Après la capitale ukrainienne mercredi, le chef de la diplomatie américaine est attendu ce jeudi à Berlin pour des discussions avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Et surtout vendredi, Anthony Blinken doit rencontrer son homologue russe Sergei Lavrov à Genève en Suisse pour tenter de renouer le dialogue.
La Communauté économique des États d'Afrique centrale a tenu hier sa 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. À l'ordre du jour, l'aggravation de la situation politique et sécuritaire en Centrafrique. Toutefois, la conférence a abordé d'autres questions jugées importantes. Pour les grandes conclusions de cette rencontre, Nanit Talani, adjoint à Brazzaville, Vivien Malangou, enseignant à la fac de droit de l'université Marielle Ngouabi et analyste politique.
Il y a principalement trois grandes conclusions. La première porte sur la stratégie de sécurisation maritime, du domaine maritime. La deuxième grande conclusion porte sur la solidarité entre les États membres, qui sont donc victimes du terrorisme. Et enfin, la contribution communautaire quant à l'intégration des États membres. Plutôt en sachant que le président de la RDC, M. Tshisekedi, succède au président congolais de l'État.
Y a-t-il des actions que les gouvernements comptent mener
Le problème, c'est toujours pareil. Il y a toujours des très bonnes intentions et derrière, la pratique, la mise en place est toujours sujette à caution. Vous vous souvenez sans doute qu'en 2020 déjà, la conférence des chefs d'État de la CRDC avait décidé d'apporter une aide substantielle à la Centrafrique. Et finalement, il n'y a pas eu grand-chose. On n'a pas vu un déploiement de moyens pour aider la Centrafrique à sortir de cette passe. Donc cette fois-ci aussi, on peut regretter l'absence de véritables moyens mis à la disposition de cette organisation internationale pour sortir le pays des menaces. La question du terrorisme, par exemple, aujourd'hui en RDC, est un vrai problème, et même au Tchad. Mais il n'y a pas, dans le communiqué d'aujourd'hui, de véritables moyens dont pourra disposer l'organisation internationale pour faire face à ses objectifs.
La conférence a pourtant insisté sur l'aide à apporter à la RCIA, mais aussi au Tchad, qui est dans une période de transition politique assez difficile.
Ils avaient mis en place une médiation concernant la Centrafrique. Ils avaient pour objectif, déjà en 2020, d'organiser un dialogue inclusif entre les acteurs politiques, les acteurs engagés dans le conflit centrafricain. Rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, ce dialogue n'existe pas véritablement. Donc c'est un échec. Concernant le Tchad, voilà un régime constitutionnel dans lequel toutes les règles de succession ont été violées, puisque comme vous le savez, le fils du président Dauphin Déby, il n'était pas le président du Sénat, a remplacé son père de façon complètement illégale ou inconstitutionnelle. Et les États de la CAC ont brillé par un silence assourdissant. Bien au contraire, le général Déby a été reçu dans les principales capitales de la CAC. C'est pour dire que toutes ces questions-là peuvent être aujourd'hui évoquées dans le communiqué final. Mais ce que les gens attendent, ce sont des actions.
À quoi peut alors servir une organisation qui n'a pas la politique de ses moyens?
Sans doute à partager la galette du roi. On se pose la question même de l'importance de la CAC. Vous savez que la CAC est une grande organisation, mais qui en sent fin à deux autres organisations qui ne sont pas en réalité affiliées à la CAC, mais dont les États membres sont regroupés dans des organisations communautaires. C'est le cas de la CEMAC et de la SADC. La CEMAC pour les États de l'Afrique centrale et la SADC pour les États de l'Afrique australe. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les grandes décisions qui contraignent les États, ce sont des décisions qui sont prises dans le cadre communautaire. Finalement, quand ces États viennent se retrouver dans le cadre de la CEAC, ils ne font pas grand-chose. Ça devient plus une organisation de coordination de politiques publiques ou de bonnes intentions. Vous savez, madame, on ne construit pas des États. La coopération économique a pour base d'abord la démocratie, l'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de démocratie. Il est difficile de parler de coopération économique.
Vivien Manangu, enseignant à la fac de droit de l'université Marien Ngouabi et analyste politique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le gouvernement malien tente de contourner les sanctions de la CEDEAO et limiter leur impact. Une forte délégation ministérielle s'est rendue à Conakry et Nouakchott mardi. Jusque-là, les ports de Dakar et d'Abidjan étaient utilisés par les opérateurs économiques maliens pour l'importation de leurs produits. Quelles sont les options du Mali face aux sanctions de la CEDEAO? Abdourahman Dia a joint à Dakar l'économiste Malik Sané.
Ça va être extrêmement difficile. Non seulement parce que les infrastructures routières sont en mauvais état. Ensuite, c'est de très longues distances, donc qui vont renchérir les coûts du transport. Le chemin de fer n'existant pas. Donc, le fait de contourner Dakar et Abidjan pour passer par Nouakchott, ça va être extrêmement difficile en termes de temps, mais c'est également le mauvais état des routes rendrait extrêmement long et coûteux, n'est-ce pas? Ce serait un moindre mal, mais ça va être effectivement coûteux et ça va être répercuté au niveau des prix de vente.
Est-ce qu'on peut dire un peu que le Mali est victime de l'effet surprise de ces sanctions?
Cet effet surprise est réel parce que personne ne pouvait s'attendre à des mesures aussi drastiques. Cette situation va mettre très mal le Mali par rapport à la disponibilité de ressources pour faire face à ses engagements, aussi bien internes qu'externes.
Est-ce que, par exemple, des ports comme ceux de Nouakchott ou de Conakry, combien de temps il leur faut pour s'ajuster à la demande malienne?
Oui, mais ça va demander du temps. Et compte tenu de la surprise, il va falloir certainement, dans un premier temps, certainement encaisser le coup, à moins que les deux parties puissent arriver à un compromis pour une levée, en tout cas assez rapide, des sanctions.
Alors, si la crise perdure et que les opérateurs économiques maliens se tournent vers d'autres ports ou routes, est-ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'auront pas du mal à retrouver ce marché malien à un certain point?
Il y aura certainement des effets à court terme, parce que le Mali va chercher à diversifier ses partenaires, notamment en termes d'acheminement des produits d'importation. Mais encore une fois, cela ne serait pas une solution durable. Donc, l'augmentation des prix des denrées au Mali, dans une situation de relative pauvreté, je pense que ce qui est souhaitable, c'est qu'on revienne un peu sur ces mesures-là pour pouvoir permettre véritablement à la population malienne de retrouver son niveau de vie d'avant avec la rapidité nécessaire en ce qui concerne l'acheminement des produits.
Malik Sané, enseignant-chercheur en sciences économiques et de gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dévoilé une grande quantité de riz récolté par les agriculteurs pour rembourser leurs prêts bancaires. Les crédits à faible taux d'intérêt ont aidé à plus que doubler la production de riz et de maïs, réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations. La Banque centrale du Nigeria prévoit de vendre le riz à des prix inférieurs au marché pour soulager les consommateurs qui paient les produits de base à des prix élevés. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
La gigantesque pyramide de sacs de riz empilés les uns sur les autres a été dévoilée mardi à la Chambre de commerce à Abuja. Le président Muhammadu Buhari a présidé la cérémonie en présence de hauts responsables gouvernementaux, notamment de la Banque centrale et de plusieurs gouverneurs d'État. M. Buhari a félicité les agriculteurs et a exhorté davantage d'entre eux à participer au programme de prêt.
It is my desired hope and expectation.
Et mon espoir et mes attentes que d'autres produits agricoles imitent l'association des riziculteurs du Nigeria en soutenant notre campagne d'administration pour l'autosuffisance alimentaire.
Le programme Encore Borrowers a été lancé en 2015 par la Banque centrale du Nigeria. Le plan fournit aux riziculteurs des prêts et des conseils techniques afin qu'ils puissent accroître la production et augmenter les rendements tout en limitant la dépendance du pays aux importations. Les autorités affirment que 6 ans plus tard, le programme a donné le résultat souhaité, réduisant considérablement les importations de riz et faisant passer la production locale annuelle d'environ 4,5 tonnes à 9 tonnes. Le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiel, estime que la résilience des agriculteurs a porté ses fruits.
Permettez-moi de féliciter tous nos agriculteurs et leurs diverses associations pour leur diligence, leur bravoure, leur patriotisme et leur flexibilité. Ces dernières années ont été très difficiles pour eux car ils ont lutté contre l'insurrection, le banditisme, les blocages et autres obstacles. En effet, nous avons perdu certains de nos agriculteurs à la suite d'attaques insurrectionnelles dans tout le pays, tandis que certains n'ont pas pu accéder à leurs fermes pendant plusieurs mois.
Le Nigeria a interdit les importations de riz en 2015 dans le but de produire cet aliment de base localement. Lors du lancement mardi, les autorités ont exprimé leur confiance dans le fait que des quantités adéquates de riz pourraient être produites au niveau local, affirmant que la tendance devrait affecter le prix du riz au plan national. Dans le même temps, l'association des riziculteurs a exhorté le Nigeria à tirer parti de cette opportunité et à exporter vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et John Linden, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.